garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter.
Une fille de Paris a gueulé vers le ciel et laissé sa jeunesse dans un bagne pourri. Femme, si vous luttez, saluez Louise Michel. Et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Femme, si vous luttez, saluez Louise Michel. Et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Aussi souvenons-nous que des frères oubliés, venus d'autres pays, citoyens de la terre, sont morts des mêmes balles que leurs frères français. Ils avaient oublié les drapeaux, les frontières. Sont morts des mêmes balles que leurs frères français. Ils avaient oublié les drapeaux, les frontières. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter.
Notre mémoire est née de ces quelques semaines. Compagnons et compagnes, il faut l'utiliser. Revendiquons les rues, les montagnes, les plaines. Et comme les communards, abolissons l'Élysée. Revendiquons les rues, les montagnes, les plaines. Et comme les communards, abolissons l'armée. Il faut gratter l'oubli dont on a recouvert les leçons des copains qui furent assassinés.
Il faut savoir que l'autonomie ouvrière a laissé dans l'histoire des blessures infectées. Il faut savoir que l'autonomie ouvrière a laissé dans l'histoire des blessures infectées. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter.
Avec mes potes de la déconne, au bar de l'hôtel Richelieu, on attendait que la vie nous donne une bonne raison d'être plus vieux. Il y avait du cambouis sur nos mains, de la sueur plein nos carcasses. Pas trop d'avenir dans nos lendemains, ni d'avis sur le temps qui passe. C'est vrai qu'avec nos cheveux d'apache et nos fringues de supermarché, dans le décor on faisait un peu tâche, du genre démon chez les curés. Ce soir-là, dans une étincelle, elle a mis ses yeux dans mes yeux. Elle était très spirituelle, et moi plutôt spiritueux. C'était la fille de l'hôtelier qui revenait de ses études anglaises. Tout petit, on s'était embrassé sur la plage au pied des falaises. Mes potes m'ont dit, elle est trop belle, puis son père nous prend pour des bœufs. Tu vas encore te brûler les ailes. Moi j'aime jouer avec le feu. Le feu. On n'était pas du même quartier, du même bateau, de la même ronde. Mais quand l'amour l'a décidé, tous les cœurs comme des glaçons fondent. On a roulé sur les galets jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. J'avais beau n'être qu'un gringalet, j'aurais bouffé la terre entière. Aujourd'hui au bar de l'hôtel, c'est moi qui sers les...
Musique en lutte.
Musique en lutte.
Enfin, les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Les gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
1, 2, 3, 4. Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 dans l'émission Musique en lutte qui a lieu le quatrième jeudi de chaque mois. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur l'adresse internet, notre site musiqueenlutte.noblog.org. Alors aujourd'hui, nous proposons un entretien réalisé le 6 octobre avec Élise Petit, maîtresse de conférence en histoire de la musique des 20e et 21e siècles. Elle a consacré sa thèse de doctorat à l'étude des politiques musicales en Allemagne, sous le Troisième Reich et durant l'occupation alliée jusqu'en 1949. Il y a d'ailleurs en ce moment même, et jusqu'au 25 février 2024, une exposition au mémorial de la Shoah dont le thème est « La musique dans les camps nazis ». Élise Petit est la commissaire de cette exposition. Cet entretien va porter particulièrement sur comment la musique a tenté d'être utilisée contre toutes celles et ceux qu'il jugeait déviants ou déviantes. Homosexuels, personnes queer et trans, roms, synthés, juifs ou militants politiques. Et pour commencer cette émission, nous vous proposons deux morceaux. Alors le premier, c'est Barricade. Alors désolé, j'ai des petits problèmes de prononciation, c'est pas évident, voilà. Composé par Schmerke et Kaczerginski, qui ont été des résistants du ghetto de Vilnius pendant la Seconde Guerre mondiale, et repris avec brio par le groupe de punk metal Klunk. Et à suivre, le morceau Zognit Kennel de Hirsch Glick, interprété par le groupe militant de punk rock Cartouche. Bonne écoute à vous.
Skinner, l'air boy in barricade.
Gott nie kennt, wo hast du gern dem letzten Weg? Wenn ihm ein bleiner Verstern bleuen Tag, weil er kommen weg nach unser Haus gebängte Show. Es werde Bord und unser Trott mehr seinen Dor, car sonnera pour nous l'heure tant attendu. Nos pas feront retentir ce cri, nous sommes là. Von grünen Palmenland bis feinen von Schnee, wir kommen aus mir unser Bein mit unser Weh. Und wo gefallen in so spritzt von unser Blut, spross wird doch unser Kur, unser Mut. Là où est tombée la plus petite goutte de sang, jaillira notre héroïsme et notre courage. Seit die Morgensuppe gilt uns dem Heint, und der Netzwerk verschwindet mit der Feind. Neue Phasen, wenn wir die zu der Kajo, wir Parolen und gehen das Lied von dort zu dort. Et si le soleil tardait à l'horizon, ce chant se transmettra comme un appel. Das Lied geschrieben ist mit Blut und mit Blei, sie's nicht kennlich von der Folter oder frei. Das alte Volk schwind verdient gewend, das Lied gesungen mit einer Gades in die End. Ein Peuple entouré de murs qui s'écroule, la chante et le pistolet nagant à la main. Ne dis jamais que malgré les cieux de plomb qui cachent le bleu du jour, car sonnera pour nous l'heure tant attendue, nos pas feront retentir ce cri, nous sommes là. Car sonnera pour nous l'heure tant attendue, nos pas feront retentir ce cri, nous sommes là.
Bonjour Élise Petit et bienvenue dans cette troisième émission de Musique en Lutte.
Merci.
Donc vous êtes musicologue, spécialiste de la musique sous le Troisième Reich et directrice du département de musicologie de l'Université de Grenoble-Alpes. Donc la musique sous le Troisième Reich, ce sera le thème de cette émission. À la fois comment elle a tenté d'être utilisée par le régime nazi, mais aussi comment elle a pu servir d'espace de résistance et de survie pour certaines personnes. Première chose qu'on peut faire pour plonger dans cette époque, c'est revenir un peu sur le contexte qui règne en Allemagne avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933. Et donc ce qu'on a appelé les années folles sous la République de Weimar. Alors on connaît souvent les mouvements de peinture, avec par exemple Autodix, le Bauhaus, le théâtre avec Bertolt Brecht, le cinéma avec Murnau. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire un peu plus qu'est-ce qui se passait en termes de musique dans la société allemande à cette époque ?
Alors en fait, c'était vraiment... La musique, elle a suivi vraiment les courants picturaux. Donc il y a eu de la musique un peu expressionniste avec certaines œuvres d'Arnold Schoenberg, par exemple. Il y a eu des œuvres qu'on aurait pu rattacher à la nouvelle objectivité. Il y a eu un grand essor du jazz, des cabarets... et qui, en fait, au début, dans les premières années, était très politique, quand la situation politique était très mauvaise, sous la République de Weimar. Et puis, à partir des années 1924, quand la situation s'est améliorée, le cabaret s'est plutôt tourné vers le divertissement. Et à partir de 1929, quand ça a été à nouveau la crise, il est redevenu politique. Et les courants ont suivi un peu ce chemin-là. Pareil, le courant dada, il avait plus d'influence au début de la période qu'à la fin. Et il y a eu de la musique dada aussi. Donc les artistes, les musiciens, finalement, ils ont beaucoup suivi les autres courants picturaux.
Et j'ai noté qu'il y avait aussi la musique atonale qui était arrivée. Alors est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus ?
Ça, c'est en fait, c'est la fin, c'est un peu le rejet de ce qui s'est fait sous le romantisme, mais un peu la même chose qu'en peinture. Donc ils ont voulu sortir du système tonal. Et puis sortir de la grande musique wagnérienne, la grande musique romantique, et c'est passé par le fait de détruire la tonalité de la gamme, enfin d'un morceau, pour perdre les repères et finalement inventer un nouveau système de composition.
Un dernier mot pour présenter un peu le contexte, c'est que il me semble que la musique, de manière générale dans la société allemande, a un peu une place particulière depuis le 19e siècle et que c'est une société qui écoute de manière générale beaucoup de musique. Est-ce que c'est bien le cas ?
Oui, c'était une société très musicale depuis le 19e siècle. Il y avait aussi des politiques qui avaient été mises en place sous la République de Weimar pour, on va dire, éduquer les classes populaires à la musique. Il y avait des cours du soir qui étaient organisés par différents artistes en faveur des ouvriers, par exemple. Donc il y a eu une politique aussi d'éducation à la musique. Donc la musique était très, très importante. Et ce dont s'est servi le Troisième Reich, c'est qu'il y avait ces mouvements ouvriers, justement, de chœur qui étaient assez importants, qui s'étaient développés dans les années 20 et qui ont été ensuite utilisés comme un peu un moyen d'embrigadement des masses.
Et du coup, à l'arrivée au pouvoir du régime nazi, va se développer un petit peu la volonté de chasser l'entartete Musik. Alors, j'espère que je le prononce bien, c'est la musique dégénérée. Et c'est d'ailleurs le titre d'un livre que vous avez coécrit, donc Entartete Musik, musique interdite sous le Troisième Reich, de Bruno Giner et vous, Élise Petit. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer comment est apparu ce concept de musique dégénérée et qu'est-ce qu'il recouvre ?
Ça, c'est un concept qui est lié à un peu au conservatisme des ultranationalistes avant même que les nazis soient arrivés au pouvoir, qui mettaient, qui se lamentaient sur l'état de déchéance de la société avec les nouvelles formes de modernité musicale et qui décriaient cette musique. Et c'est notamment l'idéologue du régime, donc qui s'appelle Alfred Rosenberg, celui qui a écrit le programme du parti nazi. C'est lui qui a un peu forgé cette expression de Entartete, puisque normalement c'est un terme de biologie, pour dire qu'il s'éloigne de son espèce. Donc il y a eu le Entartete Kunst, l'art dégénéré, la musique dégénérée. C'était une façon en fait d'attaquer toutes les formes de modernité qui avaient eu lieu sous la République de Weimar, et surtout l'art créé par les Juifs.
Et concrètement, comment est-ce que cette... je ne sais pas si le mot purge est adapté ou cette... on va dire chasse à la mauvaise musique va se passer. Est-ce que c'est une théorie mais qu'il y aura du mal à s'appliquer et que les gens dans la société vont continuer à écouter de la musique, ou est-ce que...
Alors,
ça
y a
va
vraiment
vraiment
eu,
être...
Il y a vraiment eu des partitions qui ont disparu. Les partitions des compositeurs juifs morts, par exemple Meyerbeer, elles ont disparu des bibliothèques, même Mendelssohn. Et même les nazis ont commandé une nouvelle musique pour la musique du Songe d'une nuit d'été que Mendelssohn avait écrite pour la pièce de Shakespeare. Ils ont commandé une nouvelle musique pour remplacer celle de Mendelssohn. Donc il y a aussi eu ça. Mais c'était plutôt donc des musiques qui étaient soi-disant interdites. Mais le régime nazi est un régime qui n'a pas de politique culturelle uniforme. Et donc elle est pleine de paradoxes. Donc pour les tenants de l'aile très conservatiste, très ultranationaliste, donc le courant Rosenberg, le jazz par exemple devait être éradiqué d'Allemagne parce que c'était d'une race impure, donc une race inférieure. Et finalement, donc ça a été interdit dans certains Länder. Mais Goebbels, le ministre de la propagande, lui, a saisi aussi le potentiel du jazz et s'est dit que plutôt que de l'interdire, vu que c'était une musique très populaire, il ferait mieux de promouvoir un jazz nazi ou nazifié. Parce qu'il y avait ces fameux groupes de jeunes qui dansaient, qu'on appelait la Swing Jugend, qui se retrouvaient le soir pour danser au son de ces musiques interdites. Et certains, d'ailleurs, ont été envoyés dans des camps, hein, ça rigolait pas. Et voilà, donc Goebbels, lui, a essayé de s'arranger un peu avec ça. Donc c'est jamais vraiment très uniforme. Il y a plein d'interdits, ou il y a plein de choses qui sont un peu condamnées officiellement, mais dans les faits, le jazz, on en a entendu en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre.
Quelque chose que j'ai appris, moi, en écoutant un chercheur qui s'appelle Johann Chapoutot, qui a écrit un livre qui s'appelle « Libre d'obéir, le management du nazisme à la RFA », c'est qu'en fait, le régime nazi... il est très totalitaire, mais finalement, il est assez peu bureaucratique. Qu'en fait, vous me dites si je me trompe, mais que finalement, tout est un peu expérimental, quoi. Il y a beaucoup de sous-lieutenants d'Hitler qui se tirent la bourre pour, avec
c'est
des
ça.
Sortes de visions un peu différentes et qui tentent Bah, j'imagine d'avoir l'aval du chef.
C'est vraiment un régime polycratique. Et même, c'est arrivé par exemple que Goebbels ait réussi à obtenir une autorisation de Hitler de faire jouer un spectacle, par exemple. Et Rosenberg passe derrière. Et après la conversation avec Hitler, finalement, le spectacle est annulé. Donc, ça arrivait aussi, ça, d'une réunion à l'autre, celui qui passait le dernier. Et il y avait beaucoup, beaucoup de rivalités, pas seulement entre Rosenberg et Goebbels, il y avait aussi avec Göring, avec les dirigeants de la jeunesse hitlérienne qui, eux aussi, voulaient avoir leur mot à dire sur les politiques musicales. Donc, c'est très fouillis, finalement, ce qui se passe. C'est, sur le papier, ça a l'air clair, mais dans les faits, c'est pas clair du tout.
Dans cette émission, on va détailler un tout petit peu plus le cas du jazz dont vous avez déjà un petit peu parlé. Donc, dans un entretien que vous avez donné en 2016 sur le site Hors Série, vous parlez du fait que, du coup, l'enjeu pour Goebbels qui veut imiter le jazz, c'est de faire du jazz sans swing. Alors, c'est quoi le swing dans le jazz? Comment on définit ça?
C'est très compliqué parce que si on écoute du jazz nazifié, ça sonne vraiment pratiquement exactement comme le jazz de l'époque, puisque c'est le jazz des big bands, hein, donc c'est un peu le jazz qu'on appelle aussi d'ailleurs le swing. Et la différence, c'est que là, les interprètes sont blancs et ont pu prouver que leurs ascendances étaient ariennes, donc que leurs grands-parents étaient aussi ariens. Et puis, c'est un jazz un peu plus, ce qu'ils appellent apprivoisé, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de place pour l'improvisation. C'est un peu écrit de façon plus carrée, mais franchement, je défie quand même les gens de faire la différence à l'oreille entre du jazz nazifié et du jazz de l'époque. C'est quasiment impossible, parce que parfois, enfin souvent même les artistes étaient les mêmes en fait. Par contre, le jazz nazi que Goebbels a initié avec un groupe qui s'appelait Charlie and His Orchestra, c'est parce que c'était nazi, parce que les paroles des chansons étaient nazies. En fait, c'est un groupe qui reprenait tous les standards de jazz américain, mais qui changeait les paroles et qui en faisait des paroles de propagande pro-allemande en pleine guerre, anti-Roosevelt, anti-Churchill. Donc là, oui, ça c'est du jazz nazi, mais les autres, voilà, c'est de la musique récupérée, en fait, avec des interprètes très complaisants, qui, après la guerre d'ailleurs, diront tous qu'ils ne savaient pas que le régime nazi, c'était mal, et que c'était des artistes avant tout. Tout le monde s'en sort toujours comme ça, au moment de la dénazification. Donc voilà, c'est un jazz un peu moins, on va dire, entraînant peut-être, ou un peu moins spontané que le jazz états-unien.
Et il y a un instrument en particulier qui, si j'ai bien compris, semble vraiment incarner cette dégénérescence de la musique, c'est le saxophone. Alors, pourquoi ? Pourquoi le pauvre saxophone?
Alors ça, c'est compliqué, parce que dans les revues de musicologie que j'ai lues, donc les musicologues nazis sont plutôt contre cet instrument parce qu'ils trouvent qu'il a un timbre mou, efféminé. Et donc, même en poussant un peu plus loin les plus extrêmes, on va dire, suspectent que ça pourrait rendre homosexuel. Voilà. Mais en même temps, il y a d'autres musicologues qui répondent « Mais non, mais c'est un instrument qui a été inventé par Adolf Sax, qui est un germanique, donc s'il n'y a pas de raison qu'on interdise cet instrument, c'est un instrument allemand. » Je pense que ce qui le rendait indésirable, c'est parce que c'est vraiment l'instrument emblématique du jazz. Et d'ailleurs, dans le groupe de jazz nazifié de Goebbels, il y a plutôt des violons ou des clarinettes.
Pour revenir sur ces jeunesses qui écoutent du jazz, est-ce que c'est vraiment très minoritaire, ou est-ce que c'est quand même un vrai mouvement un peu de jeunesse? Et puis, au bout de combien de temps est-ce que le risque il devient trop grand et les personnes se font déporter? Est-ce que ça perdure, quoi?
Alors, il y a eu des déportations, je pense, à titre un peu comme si c'était des déportations vers des maisons de correction. Mais enfin, c'est quand même, ils ont quand même eu des peines de camp de plusieurs mois ou plusieurs semaines. Ce qui était risqué, en fait, c'était de se rassembler dans un land où le jazz était interdit et où c'était interdit de danser cette musique-là, parce que c'était pas le cas partout. Et puis, ça dépendait de tellement de choses, il suffisait parfois de changer les programmes avec des titres allemands pour endormir la méfiance, ou il suffisait qu'il y ait des contrôleurs qui connaissent très bien cette musique. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était polisser la jeunesse, et en gros, le courant Rosenberg, ce qu'ils veulent, c'est que les jeunes Allemands dansent sur de la musique folklorique, traditionnelle bavaroise. Et ça, évidemment, ça plaît à personne. Puis ça plaît même pas aux soldats. C'est aussi les soldats qui écoutent pas mal de jazz. Donc eux, ils ont pas vraiment de... Ils sont pas... comment dire? Ils sont pas sanctionnés pour ça. Mais ce qui fait peser, en fait, un risque, c'est que c'est une musique étrangère qui vient des États-Unis. Et le risque, c'est que ce soit une musique qui soit diffusée avec ses paroles en anglais et qu'elle véhicule aussi un autre mode de vie, un autre rêve que le rêve millénaire du Troisième Reich.
Beaucoup de résistance musicale dans la société civile allemande, ou est-ce que c'était vraiment minoritaire du fait des risques?
C'est un peu compliqué toujours de parler de la résistance parce que, par exemple, avec le recul, aujourd'hui, on dira moins facilement que une personne a collaboré si elle a pris sa carte de la chambre de musique du Reich. Parce qu'en fait, pour pouvoir continuer à exercer en tant que musicien ou musicienne, il fallait avoir cette carte. Donc c'était comme un syndicat. Et l'adhésion était obligatoire. On ne pouvait pas y adhérer si on était juif ou si on était communiste. Mais en tout cas, si on voulait exercer, jouer pour même des concerts de charité, de toute façon, il fallait cette carte. Donc c'est très compliqué avec le recul parce que tout le monde s'est encarté, donc on a quand même tendance à se dire que beaucoup de gens ont collaboré, mais il y en a pour qui c'était ce qu'on appelle des adhésions tactiques, donc c'était toujours compliqué de savoir. Je pense que la forme de résistance, c'est les gens qui parfois même ont adhéré à cette chambre, mais ont choisi de ne pas faire jouer leur musique en Allemagne. Ça, c'est quand même une forme de résistance, de ne pas faire jouer ses pièces. Alors parfois pas volontairement, parce que Anton Webern, qui était un élève de Schoenberg, il était plutôt admiratif de Hitler, mais enfin il était très pro-guerre en plus, mais en tout cas sa musique était considérée comme dégénérée, donc elle n'a pas été jouée sous le Troisième Reich. Mais il y en avait d'autres dont la musique pouvait plaire et qui ont choisi justement, comme un compositeur qui s'appelle Hartmann, de ne pas la faire jouer. Donc c'est plutôt ça la résistance, je dirais.
Schoenberg, juste pour préciser, c'est la personne qui est un peu à l'origine du courant de musique atonale dont on a parlé au début d'émission.
Et puis c'est vraiment celui qui est vilipendé en premier. C'est, pour eux, c'est l'exemple parfait de la musique dégénérée parce que c'est un compositeur juif et pour eux, il a détruit la tonalité. Donc c'est vraiment, voilà, il cristallise toutes les haines, on va dire.
Et tous ces artistes dont on a parlé en tout début d'émission qui ont composé la vie culturelle extrêmement riche de la République de Weimar, qu'est-ce qu'ils sont devenus une fois le régime nazi en place ?
Alors ceux qui ont été considérés comme dégénérés, c'est-à-dire globalement tous les compositeurs juifs et communistes, se sont exilés ou ont été renvoyés. Par exemple, Schoenberg, il a été mis à la retraite très rapidement. Mais une partie a fui assez tôt. Et puis, il y a eu donc tous ceux qui avaient un langage moderne, mais qui n'étaient ni juifs ni communistes, et qui auraient pu continuer à créer. Donc c'est une partie de ceux-là qui a refusé justement d'avoir ses œuvres jouées. Puis il y en a qui sont partis en exil sans être menacés, mais parce que voilà, ils ne se reconnaissaient pas dans les valeurs. Donc il y a quand même eu ces artistes de la modernité. Pratiquement aucun n'a continué à composer sous le Troisième Reich. Il y a eu Hindemith, qui était un compositeur très prometteur, mais qui a été rapidement considéré comme trop moderne, justement, par le régime.
Et que sont devenus les cabarets, les opéras, tous les lieux de musique de la République de Weimar ?
Alors l'opéra, ça c'était pas un problème parce que c'était déjà un endroit quand même assez conservateur, donc c'était pas un problème. Mais par contre les cabarets, Goebbels a essayé de faire un peu comme avec le jazz, c'est-à-dire d'enrôler des artistes de cabaret pour former un cabaret un peu pro-nazi. Mais ça s'est très très vite terminé parce que c'est un genre qui est par essence satirique. Et le peu de liberté que s'octroyaient les artistes, c'était déjà trop pour le régime. Et donc, il marque dans son journal, d'ailleurs, il en a condamné quelques-uns à quelques semaines de peine de camp pour les faire réfléchir sur leur humour. Donc, c'est un genre... Le cabaret nazi n'a pas pu exister, parce que c'était pas possible.
Il est temps de passer dans une seconde partie de l'émission, où on va plutôt s'intéresser à la musique... comme outil du projet concentrationnaire puis génocidaire du régime nazi. Et donc pour ça, on s'appuie sur le travail que vous avez réalisé dans la mise en place d'une exposition qui est encore actuellement au mémorial de la Shoah et jusqu'au 25 février et qui s'appelle « La musique dans les camps nazis ». Et donc peut-être un premier point pour mieux comprendre tout ça, c'est de comprendre que les jeunesses hitlériennes et les militaires écoutaient et chantaient beaucoup de la musique. Il y a eu tout que les chants étaient aussi très développés dans le régime militaire et que c'est l'extension de ça qui a été mis en place dans les camps.
C'est un peu un transfert culturel. C'est vrai qu'il y a eu une éducation par la musique assez importante, notamment un enrôlement massif dans les mouvements de jeunesse. Et dans les mouvements de jeunesse, il y avait de la musique qui résonnait un peu toute la journée pour toutes les occasions. Donc c'était une société très musicale. Les jeunes étaient habitués à se déplacer en chanson. Ça, c'est aussi le fonctionnement militaire. Et donc ces jeunes-là qui ont aussi formé une partie des effectifs de la SS, ils ont un peu transposé finalement cette formation ou cette habitude quand ils ont eu à prendre les camps en charge. Et c'est pour ça que fréquemment... ils imposaient aux détenus de chanter pendant les déplacements. Ça permettait de synchroniser les pas et ça permettait aussi d'éviter que les gens communiquent. Donc c'était très pratique. Et puis il y a toujours en fait cette fascination pour l'ordre, la discipline militaire et même les personnes qui ont connu l'occupation en France ont toutes témoigné après la guerre la fascination qu'exerçaient ces troupes toujours bien mises, qui marchaient impeccablement. Ça faisait partie aussi du prestige de l'armée allemande. Donc c'était très important, la synchronisation des pas dans les camps. Et ils veillaient à ce que les détenus appliquent ça très strictement.
Oui, dans l'émission de hors-série, vous dites qu'il y avait même des chants de militaires pour l'épluchage des patates, par exemple.
Oui, les chants de la jeunesse hitlérienne, c'est incroyable. Ils ont vraiment des catégories pour toutes les occasions. Et donc, voir qu'ils chantaient pendant l'épluchage des pommes de terre, ça montre à quel point, en fait, il n'y avait pas de moment où ils pouvaient communiquer et parler. Parce que même à ces moments-là, il y avait des chants qui étaient préconisés.
Avant de continuer sur la musique, plus précisément dans les camps, On s'est dit en préparant l'émission que faire un tout petit rappel pour les auditeurs et les auditrices des différents types de camps qui existent, ça peut être utile parce qu'on a peut-être une image un peu globalisante des camps du régime nazi. Donc il faut mettre de côté les camps de prisonniers de guerre qui sont très spécifiques, où les conventions de Genève s'appliquent et où là... les activités culturelles sont parfois même encouragées.
Oui, c'est là où Olivier Messiaen a écrit son quatuor pour la fin du temps.
Voilà, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une typologie de camps qui existe et qui est assez particulière. Ensuite, il y a des camps qui sont plus des camps concentrationnaires. Alors évidemment, c'est assez complexe, hein, tout ça. Par exemple, Auschwitz, c'était à la fois concentrationnaire, à la fois centre de mise à mort. Enfin voilà, donc il y a des camps qui avaient plusieurs statuts. Mais en tout cas, la majorité des camps, vous m'avez dit, autour d'un millier...
Oui, dans plusieurs milliers,
sont des camps concentrationnaires. Et puis, il y a les centres de mise à mort qui sont plutôt 6 ou 7.
Un petit nombre et qui ouvrent vraiment avec le projet en fait, de la mise à mort de toutes les populations juives d'Europe. Donc ça, c'est après 1941. Donc déjà, c'est beaucoup plus tard. Alors que les camps de concentration, ils ouvrent dès 1933.
Et donc les plus connus dans les centres de mise à mort, ça peut être Treblinka ou Auschwitz pour un bout du camp. Quoi. Quelque chose qui réunit ces différents types de camps, c'est que dans tous les cas, la musique y est très présente.
Oui.
Alors, vous l'avez dit, il y avait des orchestres qui rythmaient le travail. Qui composait ces orchestres et comment leur répertoire il était choisi? Qu'est-ce que c'était ces orchestres des camps?
Donc c'était des orchestres de détenus. Des détenus qui étaient recrutés après leur arrivée, soit parce qu'ils s'étaient déclarés comme musiciens, soit parce que pendant qu'ils étaient en quarantaine au départ, le chef de l'orchestre des détenus passait pour demander s'il y avait un trompettiste ou un violoniste, et puis la personne passait comme une audition pour être retenue. Et les instruments étaient parfois arrivés avec les détenus, ils avaient été mis dans des espaces de stockage, donc ils pouvaient leur être rendus. Et il y a eu d'autres cas où les détenus ont été autorisés à écrire à leur famille pour se faire envoyer leur instrument. Donc c'est comme ça qu'il y avait des instruments dans les camps, ça c'était pas un problème. Et puis les orchestres, ils se sont constitués sur ordre des commandants qui justement voulaient voir leur troupe de détenus quitter le camp au pas militaire le matin et rentrer du travail au pas militaire le soir. Donc ça c'était le premier usage. Et ensuite, ils se sont étoffés en fonction de la mélomanie du commandant et du degré de latitude en fait, qu'avait le chef d'orchestre. Par exemple, dans l'orchestre d'Auschwitz 1, il y a eu un moment où il y avait une centaine de musiciens dans l'orchestre. Donc là, c'est clairement le chef qui en embauche un grand nombre parce qu'il sait que ce sont des personnes qui auront quelques formes de privilèges et que ça leur épargne un commando moins pénible. Donc il y a eu ces processus qui sont déjà des processus de résistance en eux-mêmes, d'ailleurs. Et c'est l'orchestre des femmes de Birkenau, donc dirigé par Alma Rosé, qui était la nièce de Gustav Mahler, un compositeur très célèbre. Elle a vraiment recruté des musiciennes qui n'avaient clairement pas le niveau, mais parce qu'elle savait que ça allait leur sauver la vie. Et ça, il y a plusieurs témoignages dans l'exposition de ça. Donc ça, déjà, c'est une forme de résistance, même de la part des chefs. Et puis ensuite... les répertoires, pour synchroniser les pas, c'était du répertoire de marche militaire, des partitions qu'il y avait à disposition, soit que les détenus s'étaient fait envoyer, soit qu'un commandant de camp avait apporté avec lui, ou même parfois avait acheté, et puis après il lui donnait la partition à l'orchestre, et puis il y avait des copistes qui recopiaient pour chaque partie de l'orchestre. Mais ça, c'est un répertoire militaire. Le répertoire qui doit faire marcher au pas, c'est de la musique à deux temps, de la musique de marche, très dynamique.
Alors, les déportés, une grosse partie des déportés, travaillent dehors du camp. Donc, ils doivent sortir à rang. Ils doivent sortir au son de la musique militaire qu'on jouait. Une musique de marche, quoi. Ils devaient sortir droite, gauche, grosse droite en français, quoi. Et en sortant, ils devaient enlever leur chapeau. C'était un petit chapeau, c'était une petite calotte, quoi. Il fallait l'enlever. Il fallait marcher comme des militaires. Hein. Il fallait pas. S'il y en a un qui marchait pas droit, les capots étaient là et c'était. Ils sortaient le matin au son de la musique.
Et la musique qu'ils vous demandaient de jouer pendant les entrées et les sorties, c'était toujours la musique militaire.
Ah, oui, c'était toujours. Obligé. On avait les partitions. Hein. Oui, les partitions. Oui, oui, c'est plus la musique. C'est d'ailleurs l'orchestre, la plupart de l'orchestre d'Auschwitz, c'était pour la sortie et pour l'entrée des déportés. Mais on faisait quand même le spectacle aussi. Le spectacle, c'est le principal, c'est surtout pour la rentrée, pour la sortie, que les déportés puissent sortir en rang. Un rang bien, bien cadré, que les Allemands puissent les compter par 10, vous savez. Parce que sinon, s'il en sortait 3, 4 000 ou 10 000, je ne sais pas quand sortait, il fallait qu'ils rentrent la même chose, vous voyez.
On était une quarantaine, pas toutes des exécutantes. Hein. Il y avait les exécutantes et il y avait celles qui écrivaient nos partitions. Et notre vocation était de jouer des marches militaires pour la sortie des commandos. C'était les femmes. Travailler soit dehors, soit en usine, soit à l'extérieur du camp. Voilà. Alors, pour que ce soit plus commode pour les SS de les compter, nous jouions des marches militaires, scandées par la grosse caisse, les timbales, les cymbales et tout ça. Et 5 par 5, les femmes défilaient et on pouvait les recompter très facilement. Et puis, tous les dimanches, on donnait un concert. La plupart du temps, c'était entre les deux camps. Il y avait une espèce de petit no man's land où les femmes du camp A pouvaient venir nous écouter, les femmes du camp B aussi. Et puis, on jouait pour les SS. Quand ils venaient à l'orchestre, on avait un programme avec toutes les œuvres qu'on jouait. Et ils choisissaient dans ce programme 3-4 morceaux. Et entre autres, nous avions la visite assez fréquente du fameux docteur Mengele qui faisait les expériences que l'on sait et qui s'occupait à titre personnel des sélections.
Dans votre exposition, vous catégorisez un peu les différents usages de la musique dans les camps. Et cet usage, c'est ce que vous appelez la musique de coordination,
oui.
Donc qui veille à ce que toute la mécanique concentrationnaire soit bien huilée. Et dans les centres de mise à mort aussi, la musique existe, vu qu'en fait, il y a des prisonniers qui travaillent.
Voilà.
Et aussi un usage particulièrement, enfin qui peut apparaître comme assez choquant, c'est celui d'accueillir les personnes avant leur mise à mort.
Oui. Alors ça, c'est en fait lié à... Alors c'était pas toujours le cas. Hein. C'est arrivé sur des moments un peu ponctuels. Souvent, c'était lié à une arrivée de convoi, par exemple, une arrivée d'un convoi de jeunes bulgares, je crois, où il y avait beaucoup d'hommes qui étaient assez jeunes et qui étaient bien portants. Et le commandant du camp de Treblinka a eu peur qu'en fait, il y ait des révoltes à l'arrivée du convoi. Donc, pour éviter ces mouvements de panique et de révolte, il a fait jouer un ensemble de détenus pour accueillir, on va dire, entre guillemets, pour faire croire que tout allait bien se passer et qu'ils arrivaient dans un camp de travail. Mais ça, c'était pas la majorité des cas, mais ça a pu arriver. Et c'est toujours, en fait, il faut toujours imaginer que l'objectif nazi, c'est que tout se passe rapidement et efficacement. Donc, c'est pas dans leur intérêt qu'il y ait des mouvements de panique avec des gens à fusiller à l'arrivée, puisque de toute façon, ils seraient venus à bout des gens, ça c'est sûr. Donc c'est pas dans leur intérêt de perdre des heures et de perdre en plus des balles à tuer les gens comme ça. Donc leur intérêt, c'est que tout se passe très bien et que les gens aillent jusqu'à la chambre à gaz sans poser de questions. Donc il n'y avait pas d'orchestre qui jouait jusqu'à la chambre à gaz. Hein. Il n'y avait pas non plus d'orchestre qui jouait dans la chambre à gaz, ça c'est une légende qui, justement, méconnaît le fonctionnement nazi, parce que quel est l'intérêt de faire jouer un orchestre dans un endroit où on sait que les gens vont mourir, si ce n'est de faire perdre du temps au système de mise à mort. Mais par contre, oui, c'est cette musique, elle était parfois donc, à l'entrée du camp, donc c'est pas l'entrée de la chambre à gaz, mais pour finalement masquer les cris des victimes qui étaient beaucoup plus loin, qui étaient, elles, arrivées aux chambres à gaz. Et c'est vrai que vu que ces personnes devaient se déplacer en courant sous les coups, il y avait des cris. Donc l'enjeu de cette musique qui était postée à la descente des trains, c'était aussi de couvrir ces cris qu'on entendrait beaucoup plus loin.
Est-ce qu'il y avait aussi de la musique, on va dire, de loisirs, organisée par le régime nazi ? Soit pour les SS eux-mêmes, soit pour les prisonniers.
Alors, il y avait de la musique qui était autorisée pour, sur ce qu'ils appelaient le temps libre des détenus. Donc, le soir, après l'appel, ils pouvaient, et après avoir eu leur soupe, ils pouvaient s'adonner à des activités musicales, donc spontanées, on va dire, qui étaient très souvent autorisées. Et c'est parfois à ces moments-là qu'il y avait des musiques clandestines qui étaient entonnées, puisque ça avait lieu dans les blocs. Et les SS étaient peu présents, donc il y avait toujours des mouchards, évidemment, mais en tout cas, c'était un espace où il y avait un peu plus de liberté. Donc le soir, il y avait ces activités pour les détenus, par les détenus. Mais les détenus pouvaient être aussi mobilisés pour jouer pour des soirées de SS, effectivement. Là, c'est du coup, ils étaient au service des SS et ils étaient rétribués en général en cigarettes ou en rations alimentaires supplémentaires.
Et du coup, d'autres usages que vous nommez dans l'exposition et que vous montrez de la musique, c'est l'usage d'une musique intrusive.
Oui, je l'ai appelée intrusive parce que c'est vraiment une musique à laquelle on ne peut pas échapper, puisque c'est de la musique qui est diffusée par les haut-parleurs. Il y avait des haut-parleurs aussi dans les blocs des détenus. Et donc, il suffisait que des SS, rentrant d'une soirée arrosée, passent par le camp et aient envie de diffuser un de leurs disques préférés. Et ça sortait en fait dans tous les blocs et ça réveillait tous les détenus. Donc ça, c'est vraiment une musique qui est très envahissante. Et puis dans les premiers camps de concentration où l'objectif affiché était de rééduquer politiquement les opposants, il y a eu cette obligation d'écouter des discours de Hitler, après lesquels il y avait en général de la musique officielle, donc typiquement le Deutschlandlied ou le Horst Wessel Lied ou de la musique de Wagner. Donc ils pouvaient aussi entendre à cette occasion des discours avec des musiques officielles.
Et puis un dernier usage que vous nommez et que vous montrez, c'est plus un usage torsionnaire. Donc c'est la musique vraiment comme arme de torture. Pareil, est-ce que vous pouvez en dire un mot ?
C'est une musique qui est infligée, en fait, pour quelque part, elle sert à aggraver une douleur déjà présente. Et ça peut être une musique qui va accompagner des pendaisons, des exécutions, mais aussi une musique qui est jouée pendant que les personnes doivent compter les coups à voix haute pendant qu'ils sont battus. Et il y a aussi un usage très fréquent qui est fait, c'est de faire chanter les juifs, de leur faire chanter des psaumes religieux, enfin des psaumes en les battant, ou de faire danser des juifs religieux en les battant. Donc la musique, finalement, elle aggrave la souffrance. C'est pas forcément elle qui déclenche la souffrance, mais le fait d'entendre une musique dans ce contexte-là, en tout cas, ça entraîne un traumatisme pour la personne, puisque on sait que tout ce qui est infligé sous la douleur, ça décuple la mémoire. Et donc, ces musiques qu'ils ont entendues pendant qu'ils étaient torturés ou pendant qu'ils étaient battus, une fois, pour ceux qui s'en sont sortis après la guerre, une fois qu'ils les ont réentendues, ça les a immédiatement replongés dans le camp. Donc ça participe des syndromes post-traumatiques.
Et ce que vous dites dans l'émission de hors-série, c'est aussi qu'il y a eu toute des véritables transferts de compétences et de carrière des tortionnaires nazis vers l'Amérique latine, et que ce mode opératoire, ensuite, il s'est aussi diffusé, ou que d'autres gens s'en sont inspirés, ouais. Jusqu'à Guantanamo, qui est assez connu.
Oui, c'est quand même l'école SS, c'est celle qui a formé les plus grandes écoles de torture, hein, les SS qui ont été exfiltrés. Donc effectivement, parfois ils ont mis en pratique des choses qu'ils avaient un peu, c'était pas vraiment décidé en tant que tel dans les camps de se dire tiens, ça va avoir un effet sur le mental des prisonniers qu'on leur fasse chanter une chanson. Mais en tout cas, une fois qu'ils se sont rendus compte que ça avait un effet, ça a servi effectivement pour former les personnes qui ont torturé après la guerre.
Pour finir sur ce panorama un peu large de la présence de la musique dans les camps, un mot sur les camps français. Donc il y a eu des camps, c'est peut-être bien de rappeler qu'il y a eu des camps organisé par Vichy.
Voilà, il y avait des camps qui étaient sous administration française, donc ce ne sont même pas forcément à proprement parler des camps nazis, puisque une bonne partie était sous administration française. C'était des camps dans lesquels il n'y avait pas que des juifs, il y avait aussi beaucoup de réfugiés espagnols qui se sont retrouvés emprisonnés dans ces camps après la guerre et qui, pour une partie, ont été transférés dans des camps de concentration en tant qu'opposants politiques. Et dans ces camps-là, qui étaient un peu conçus, on va dire, comme des camps de regroupement avant un départ vers l'Est, les activités musicales étaient autorisées et plus encouragées, on va dire, que dans les camps de concentration. Il y avait aussi possiblement des délégations de la Croix-Rouge qui étaient susceptibles de pouvoir venir, donc il y avait quand même une attention un peu particulière portée à la possibilité d'avoir des activités culturelles. Et donc la musique a servi à résister, on va dire, spirituellement, et puis aussi à penser à autre chose, puisque la plupart des gens qui étaient dans ces camps-là ne savaient pas où ils allaient aller, ils ne savaient pas combien de temps ils allaient rester, quand est-ce qu'ils reverraient leur famille. Donc il y avait aussi tout ce problème d'angoisse généralisée qui faisait que la musique et les arts en général, d'ailleurs, participaient à calmer en fait la population du camp.
Une des histoires un peu de chant qui devient un chant de résistance et qui au départ était un chant autorisé par le régime nazi, c'est le chant des marées, oui. Donc il fait partie d'une catégorie tolérée de musique dans les camps. Est-ce que peut-être vous pouvez raconter un peu cette histoire?
C'est un spectacle de cirque qui a été autorisé. Donc des détenus qui ont organisé ça, alors c'était en plein air, hein, enfin à l'intérieur du camp, mais c'était
dans quel camp?
C'était dans un camp très peu connu qui s'appelle Burgermoor. C'est un des premiers camps qui était surnommé le camp des marais parce que les détenus asséchaient les marais, c'était leur travail forcé. Et c'est un camp où il y avait beaucoup de violence. Et c'est pour ça que les détenus, en fait, pour faire face à la démoralisation, ont décidé d'organiser un spectacle de cirque à l'intérieur du camp, mais dans l'espace extérieur. Et ça a rencontré beaucoup de succès. Évidemment, tous les SS y assistaient. Donc, le message... Il n'y avait pas vraiment de message politique clair. Hein. C'était plutôt un message sur voilà, un espoir d'une libération plus future, un appel à la solidarité en général. Et ce chant des marais, qui était le dernier numéro du spectacle, il a eu énormément de succès auprès des détenus, mais aussi auprès des SS, puisque justement, les paroles étaient assez vagues. Ils parlaient, donc, ils se considéraient comme les soldats du marais, puisqu'ils partaient bêcher dans le marais. Et ils espéraient, donc, ils disaient voilà, que les conditions étaient dures, et puis qu'un jour, ils espéraient pouvoir rentrer à la maison. Et les SS, en fait, se sont aussi identifiés à ces soldats des marais. Donc, dès le lendemain, ils ont demandé à des artistes du camp de leur faire des partitions illustrées. C'est comme ça que la partition aussi a circulé pas mal. Ce chant, il a énormément circulé dès 1933, aussi parce que les détenus pouvaient être libérés. Typiquement,
oui, c'est un cas un peu particulier parce que c'était moins
non,
vrai.
C'est les premiers camps de concentration, ça fonctionnait comme ça. Donc Wolfgang Langhoff, celui qui a fait le cabaret là, typiquement, il a été libéré parce qu'en fait c'était des peines de camp. Donc il est parti, il a très rapidement publié son témoignage. Donc dès 1934, même en France, il avait été traduit, on savait ce qui se passait dans le camp de Burgermoor. Et donc c'est comme ça qu'il a circulé, à la fois dans le monde libre et à la fois dans le système concentrationnaire. Donc c'est vraiment un chant qui a un parcours passionnant. Et il est passé jusqu'en Espagne, après il est revenu dans des camps. On l'entend jusqu'à Auschwitz, Ravensbrück, où c'est probablement là que la version française a été écrite. C'est donc celle qu'on connaît aujourd'hui sous le titre de Chant des Marais. Et donc c'est devenu l'hymne du camp de Burgermoor et c'est devenu en fait le modèle pour tous les hymnes des autres camps, puisque progressivement, tous les camps se sont dotés d'un hymne, officiel ou non, donc autorisé ou clandestin, mais en tout cas, ils se sont pratiquement tous dotés d'un hymne qui était très souvent sur ce modèle, c'est-à-dire un premier couplet de complainte sur les conditions, mais des choses assez vagues, et puis toujours un refrain d'espoir, de libération, de rentrer à la maison.
Et ce qui est particulier dans ce chant, c'est que c'est vraiment devenu, dans la version française, un chant de résistance qui peut être joué dans des cérémonies officielles, d'hommage à la résistance française, etc. Quoi.
Donc, et ce qu'il a d'unique, c'est surtout que c'est un chant qui fédère toutes les catégories de détenus. Puisque même les survivants et les descendants de familles juives se reconnaissent dans cet hymne, alors qu'il a été écrit par des résistants politiques, et c'est devenu l'hymne du MLF. Enfin, c'est vraiment un hymne qui a beaucoup voyagé et qui est encore aujourd'hui beaucoup adapté.
Wohin auch das Auge blicket, Mond, Heide, nur ins Horn. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten.
against the end column in das Moor zur Arbeit hin graben bei dem Brand der Sonne doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sehen
Le chant des marées, c'est un premier exemple de comment la musique peut participer à résister et à survivre. Et peut-être un autre cas vraiment assez exceptionnel ou en tout cas assez impressionnant, c'est celui de Germaine Tillon. Mmh. Est-ce que vous pouvez raconter cette histoire ?
Oui. Germaine Tillon, c'était une résistante française qui a été incarcérée à Ravensbrück dans le camp. Elle avait le statut nuit et brouillard, ça veut dire qu'elle n'était pas destinée à rentrer, en fait, à s'en sortir. Et elle devait rester dans le camp et elle n'était pas assignée à un commando. Elle était donc disponible, ce qu'ils appelaient en allemand du camp Verfügbar. Et en fait, la tâche du Verfügbar, c'était d'essayer d'éviter à tout prix le travail parce que c'était toujours les tâches les plus épuisantes qui leur incombaient. Donc elle a développé ce sport du camp, on va dire. Elle était assez forte à ça, elle arrivait assez bien à échapper à ces moments-là. Et il y a un moment où elle s'était cachée dans une caisse et des amis lui ont fourni du papier, elle a commencé à écrire. Ce qu'elle faisait déjà, dès qu'elle est arrivée dans le camp, elle a essayé en fait de comprendre les mécanismes pour pouvoir expliquer à ses co-détenus ce qui se passait et voilà, déconstruire un peu le système. Et là, elle a fait la même chose. Donc, elle a fait une pseudo-conférence d'un naturaliste qui se penche sur ce Verfügbar, qui est, selon lui, né de l'union d'un gestapiste mâle et d'une résistante femelle. Donc là, ça parle aussi des problèmes de viol en mots très... Enfin, c'est très évocateur, mais c'est quand même ça qui est dit derrière. Et voilà, cette créature du Verfügbar, elle est analysée un peu d'un point de vue entomologique. Et c'est à la fois très ironique et très mordant. Là, on l'a fait donner au mémorial, justement, dans le cadre de l'exposition. Et donc, c'est une pièce qui est faite pour être très drôle. Et c'est elle, ce qu'elle voulait, c'est que ses co-détenus rient, vraiment. Et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si c'est drôle, mais en même temps, c'est tellement horrible qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. On ne sait pas si on devrait rire en écoutant cette pièce, alors que ça a vraiment été fait pour ça. Et c'est aussi un moyen de témoigner. Donc c'est pour ça que c'est un acte de résistance qui est très fort, parce que là, si le texte avait été découvert, elle aurait été envoyée dans un commando punitif et s'en serait pas sortie probablement. Donc elle a vraiment caché ce texte pendant toute la fin de sa détention. Il est sorti clandestinement par une autre personne à la libération. Et donc c'est un texte qui est agrémenté de musique. Et tous les passages de musique sont des parodies, c'est-à-dire sur l'air de. Donc ce sont sur des chansons connues. Elle a un peu fait un brainstorming avec ses amis de l'époque et chacune a proposé des chansons très connues. Alors il y a des chants scouts, il y a des chansons de musique classique, il y a plein de choses différentes. Et c'est vraiment une œuvre qui dure, quand on la représente, à peu près 45 minutes. Donc il y a quand même pas mal de matière. Mais elle ne l'a pas écrite pour qu'elle soit donnée dans le camp. Elle l'a vraiment écrite pour que ça circule de la main à la main. Et finalement, ses camarades lisaient chacune dans son coin le texte et pouvaient entendre la musique grâce à l'indication sur l'air de. Donc, ce que je disais quand je parlais un peu de chanter dans sa tête ou chanter en silence, on pouvait véritablement chanter cette œuvre rien qu'à l'évocation des airs, puisque tout le monde les connaissait. En fait, elle a écrit aussi le Verfügbar en parodie parce que ce n'était pas une compositrice et elle ne maîtrisait pas l'écriture de la musique. C'était une très bonne mélomane, elle avait une très bonne mémoire, elle se souvenait très bien des mélodies, mais elle ne pouvait pas en composer. Donc c'est pour ça qu'elle a choisi ce principe de la parodie.
Et visiblement, en tout cas, c'est ce que j'ai appris dans le catalogue de l'exposition, c'est qu'elles auraient coécrit certaines strophes. Oui. En tout cas, c'est ce que Germaine Sion, qui s'en est sortie.
Oui, oui. Elles ont apporté des idées. Après, on reconnaît très bien l'humour, le ton très humoristique de Germaine Sion. Mais oui, il y a certaines chansons sur lesquelles il y a eu aussi une collaboration. Donc, ça a été écrit à plusieurs et ça permet aussi de fédérer un groupe.
Et voilà, pour la petite histoire, l'épopée de Germaine Sion, il y a aussi le fait que ça, c'est pas directement en lien avec la musique, mais que quand elle est sortie du camp, elle a réussi à emporter avec elle des informations très précieuses sur quels étaient les SS dans le camp et leur identité, grâce à des recettes.
Voilà, elle avait écrit plein de fausses recettes de cuisine et qu'on peut lire en acrostiche. Et en fait, en acrostiche, ça donne les...
C'est quoi les acrostiches?
L'acrostiche, c'est qu'on lit chaque première lettre de la première ligne. Et si on lit ça à la verticale, ça donne les noms. Et même, il y en avait une qui était une gardienne particulièrement violente. Et dans sa recette, donc il y a cette acrostiche. Et à la fin, elle marque « bien battre les œufs ». Comme ça, elle se souviendra que c'était une gardienne particulièrement violente. Et puis surtout, elle a réussi à faire sortir des photos clandestines, des expériences qui avaient été menées sur les femmes. Donc, et c'est pour ça que voilà, ça n'a pas fait partie des choses prioritaires. En fait, le faire Fugbar, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait sortir. Mais elle a énormément en fait, résisté à l'intérieur du camp de multiples façons.
Et voilà, on va aller doucement vers la fin de l'entretien et peut-être un dernier grand sujet qu'on peut aborder, c'est le cas assez particulier de Theresine Stadt. Donc si j'ai bien compris, n'hésitez pas à me corriger, Theresine Stadt, c'est un endroit qui est à côté de Prague et qui est bien un camp de concentration.
Oui, il a à la fois un fonctionnement un peu concentrationnaire et à la fois un fonctionnement de ghetto. Donc c'est pour ça qu'on parle de camp ghetto, c'est un camp assez particulier, qui a en plus été pensé pour pouvoir accueillir des délégations de la Croix-Rouge ou prouver à l'opinion internationale que certaines personnes connues étaient toujours vivantes. Donc c'est pour ça que dans ce camp, il y a des acteurs célèbres, il y a beaucoup de musiciens pragois très connus, de grande qualité, et avec cette perspective d'une visite de la Croix-Rouge, les choses sont quand même organisées pour que ces artistes survivent plus longtemps que le reste de la population. Alors, il ne faut pas pour autant penser que c'était un camp où tout le monde était privilégié, hein, parce que c'est avant tout un ghetto dans lequel il y a des gros problèmes de surpopulation, de famine et de maladies. Mais les artistes du camp ont des privilèges, notamment ils ont du papier à musique qui leur est fourni, des crayons, et c'est aussi pour ça qu'ils peuvent écrire de la musique de bien meilleure qualité que dans d'autres camps où il n'y avait pas tout ce matériel-là. Ils étaient pour une partie en plus dispensés de travail, donc ils pouvaient vraiment se consacrer à leurs activités musicales, et c'est pour ça que dans ce camp-là, il y a eu énormément d'œuvres qui ont été composées.
Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas du tout que des artistes, le chiffre c'est environ 1000 artistes pour 200 000... Enfermé, quoi.
En général, c'est moins de 10% de la population du camp qui est constituée de cette population privilégiée.
Voilà, et donc parmi les œuvres connues, il y en a une qui se joue même, et de plus en plus dans les opéras actuellement, c'est un opéra de Victor Ullmann, l'empereur d'Atlantis. De quoi parle cet opéra ?
Alors c'est l'histoire, normalement on devrait dire l'empereur de l'Atlantide d'ailleurs, mais en français on dit l'empereur d'Atlantis. C'est un empereur sanguinaire, un tyran sanguinaire qui n'arrête pas de faire la guerre, et à tel point que la mort en a marre et elle casse sa faux. Et en fait plus personne ne peut mourir, et donc il faut que l'empereur se dévoue. S'il veut le retour de la mort, la condition c'est que lui il offre sa vie en sacrifice, ce qu'il finit par faire. Donc c'est évidemment une satire du régime sanguinaire hitlérien. Et puis c'est une œuvre surtout qui est très intéressante parce que, bon, déjà le livret, il est très très grinçant et très dénonciateur, mais la musique aussi, c'est vraiment de la musique de résistance à tous les points de vue, puisqu'il utilise par exemple l'hymne allemand, qui est donc à l'époque l'hymne nazi, le Deutschlandlied, il l'utilise en le déformant, ce qui était complètement interdit. Il utilise un choral de Bach et Jean-Sébastien Bach, ça faisait partie des compositeurs que les Juifs n'avaient pas le droit de s'approprier puisqu'on considérait que c'était un outrage à la race. Il utilise un langage qui est très proche du jazz, donc qui était considéré comme entartet. Il cite aussi des compositeurs juifs de la grande tradition. Donc il y a vraiment ce kaléidoscope en fait musical qui est mis en place par Ullmann, et avec tout ça en plus il y a des intermèdes où il y a un langage atonal très moderne, puisque en plus Ullmann il avait étudié lui aussi avec Schoenberg. Donc c'est vraiment une œuvre d'une extrême grande qualité musicale. Donc rien que pour ça, il faut aller écouter cette œuvre quand elle est donnée. Et c'est vrai que forcément, le livret, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec ce qui se passait au même moment dans le camp, avec le personnage du haut-parleur, par exemple. Donc c'est vraiment une très belle œuvre.
Et est-ce qu'elle a été jouée dans à Theresienstadt ?
Elle n'a pas été jouée. Et on ne sait pas pourquoi, donc c'est là que les fantasmes se mettent en place. Donc il y en a qui disent oui, c'est sûrement parce que c'était trop résistant. Bon, on ne peut pas savoir. Ce qui est possible, c'est que c'était une période de toute façon où il y avait énormément de transports vers Auschwitz. Et donc à Theresienstadt, en fait, les effectifs des musiciens étaient eux-mêmes en perpétuel renouvellement. Et mettre un opéra en place, on sait qu'il a été répété. Hein. Voilà, donc peut-être qu'au bout d'un moment, il n'y avait pas assez de personnes. Ça, on n'en sait rien, mais en tout cas, il avait prévu qu'elle soit donnée, puisqu'elle a été répétée. Et j'ai trouvé dans les archives une caricature très intéressante de Keane, Peter Keane, donc celui qui a fait le livret, qui était aussi un dessinateur, et qui montre en fait ce qui est devenu son œuvre. Donc la première image, c'est en gros son livret, et puis première coupe faite par le compositeur, deuxième coupe faite par je sais plus qui, et puis troisième coupe faite par la censure, et puis finalement son œuvre ressemble plus du tout à ce à quoi il avait pensé. Donc ça montre bien qu'a priori la censure du camp s'était déjà exercée. Donc c'est intéressant aussi sur le processus de composition. Nous, on ne connaît que le produit fini, donc ça veut dire qu'au départ, c'était beaucoup plus dénonciateur.
Et comment est-ce que, du coup, cet opéra et le livret est arrivé jusqu'à nous ?
Alors, à Theresienstadt, il y avait une bibliothèque, comme dans d'autres camps d'ailleurs, et Ullmann a confié des manuscrits et des partitions à lui aux bibliothécaires de Theresienstadt quand il est parti pour Auschwitz. Et ça s'est fait régulièrement. En fait, les gens qui partaient confiaient les partitions à des personnes qui restaient. Et quand ces personnes ont survécu, elles ont emporté les manuscrits avec elles. Mais il y en avait un, il y avait plusieurs manuscrits qui ont été emportés par la sœur d'un des compositeurs. Et qui les a oubliés en fait après la guerre. Ils ont été redécouverts bien plus longtemps après dans ses archives personnelles. Donc il y a toujours des découvertes encore aujourd'hui.
Achtung, Achtung! Im Namen seiner Majestät des Kaisers overall. Wie zu Gottes Gnaden, aber der einzige Ruhm des Vaterlandes, Segen der Menschheit, Kaiser beider Indien, Kaiser von Atlantis, regierender Herzog von Ophir und wirklicher.
Mit dem Sieg.
Un autre exemple qui est assez emblématique de la musique de Theresienstadt, c'est l'opéra Brundibar, pour l'opéra pour enfants de Hans Krása, qui lui a été pour le coup donné et même donné de nombreuses fois dans le camp ghetto. Alors est-ce que, enfin pareil, c'est un opéra qui a une histoire assez incroyable. Est-ce que vous pouvez raconter
Mais en
ça
plus, c'est pour ça que l'argument de dire que Ullmann, ce n'aurait pas été donné parce que c'était trop dénonciateur, ça tient pas vraiment, parce que cet opéra-là de Krása, Brundibar, il est aussi très dénonciateur, puisqu'il l'avait composé en 38, donc au moment où il sentait déjà que l'Allemagne menaçait d'envahir la Tchécoslovaquie. Donc c'est une fable, une histoire de deux enfants qui doivent gagner de l'argent pour sauver leur mère qui est malade, et il y a un joueur d'orgue de barbarie qui s'appelle Brundibar, qui joue dans la rue, qui se fait plein d'argent, donc ils veulent faire comme lui. Et puis finalement, donc ils les chassent, ils leur volent leur argent. Ils sont désespérés, et grâce à l'intervention d'animaux magiques qui appellent à la rescousse tous les écoliers du quartier, la solidarité finit par vaincre le tyran. Voilà, donc là, on ne peut pas faire plus évocateur comme livret. Et donc il l'avait composé en 1938. Après l'invasion de la Tchécoslovaquie, les Juifs étaient interdits d'exercer des activités professionnelles. Donc, il a été donné clandestinement dans un orphelinat juif. Le directeur de l'orphelinat a été transporté avec les enfants à Theresienstadt. Il avait pensé à prendre avec lui la partition. Et peu de semaines après, Krása est lui aussi arrivé à Theresienstadt, et donc il lui a rendu la partition, et Krása l'a arrangé pour les instruments qu'il avait à sa disposition dans le camp. Il a été donné pratiquement une fois par semaine pendant un an et demi, c'était 43-44, pour le public tchèque uniquement, parce que c'était en tchèque, mais c'est vraiment devenu l'œuvre fédératrice pour la population tchèque du camp.
Et peut-être un mot de la fin, vous qui avez beaucoup écouté des paroles de personnes survivantes ou résistantes ou d'Allemands de l'époque, est-ce que ces personnes parlent de la musique dans leur quotidien ? Est-ce que c'est important dans le fait de survivre à cette époque ou de se donner de la force ?
Alors, les témoignages de survivants des camps parlent souvent assez peu de la musique, et quand ils en parlent, c'est justement pour dire qu'ils ont eu la chance à un moment d'assister à un petit concert et que ça leur a permis de s'évader l'espace de quelques instants de la réalité du camp. Donc ça, on le voit, mais on voit aussi des personnes qui disent qu'elles détestent l'orchestre du camp parce que la seule chose qu'elles connaissent de cet orchestre, c'est le fait qu'il les oblige à marcher au pas le matin et le soir, donc dans des situations d'épuisement. Donc il y a plusieurs choses. Et puis il y a aussi les personnes qui disent que plus jamais elles n'ont pu toucher à leur instrument de musique après la guerre, notamment des membres des orchestres des camps, parce que ça les transportait, elles se revoyaient en fait dans le camp. Il y en a qui ont continué leurs activités, il y en a qui ont changé d'instrument. Donc ils sont passés du piano, par exemple, au chant, ou qui ont carrément changé leur pratique instrumentale. Mais il y a un peu tous les cas de figure. Et c'est vrai qu'on voit que la musique a permis de résister, mais on voit qu'elle a aussi exercé énormément de dommages.
Eh ben, merci beaucoup, Élise Petit, de nous avoir guidés à travers tous ces différents usages de la musique sous le Troisième Reich et parmi les personnes qui ont tenté d'y résister. Et puis, on encourage tout le monde à aller à l'exposition qui est donc au Mémorial de la Shoah jusqu'au 25 février sur la musique dans les camps nazis. Et je précise qu'elle est gratuite.
Oui. Merci.
Thank you. something about war.
Nous venons d'entendre le titre « The Choice is Yours » du producteur anglais drum and bass Mako, sorti en mai 2022 sur le label Samurai Records, sur son album nommé « Death of a Romantic ». Et maintenant, pour notre rubrique librairie, nous vous présentons le livre intitulé « Guerre sonore », sorti en septembre dernier par l'intermédiaire de deux maisons d'édition, Audimat et Sans Soleil. Il a été écrit par Steve Goodman, également connu sous le nom de Code9, son pseudonyme de producteur et DJ dubstep. Il fait également partie de l'unité de recherche sur la cyberculture en Angleterre auprès d'autres auteurs tels que Mark Fisher. Ce livre décrit comment la maîtrise des infrabasses et l'occupation de l'espace sensoriel sont devenus l'enjeu d'une bataille où les gouvernements, les spécialistes du marketing, les designers et les technoscientifiques s'affrontent à ce qui est ici appelé le matérialisme des basses fréquences, des artistes et des populations. À travers un ensemble de chapitres aux approches variées, autant anthropologiques ou théoriques que fictives, nous sommes emmenés dans un imaginaire qui se réalise. Aussi, en voici maintenant un court extrait racontant de véritables détournements du son appliqués dans le monde militaire. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, de nouvelles techniques de coercition sonore virent le jour. Du 21 au 31 décembre 1989, les troupes américaines présentes à Panama City orientèrent des enceintes vers l'endroit où s'était barricadé l'ancien agent de la CIA, Manuel Noriega. On le bombarda de rock et de pop à plein volume et de chansons aux paroles de circonstances telles que « Nowhere to Run » de Martha and the Vandellas et « You're No Good » de Linda Ronstadt, soit pour l'irriter, soit pour l'empêcher de dormir. La pop militarisée se fit encore plus avant-gardiste pendant le siège de Waco en 1993. Le FBI se livra à de la psychocorrection acoustique, propageant dans l'enceinte où se trouvaient les Davidiens menés par le gourou David Koresh, de la musique très forte mêlée à des effets sonores. À la playlist, on avait superposé des sons et bruits de cornemuses, de mouettes hurlantes, de lapins mourants, de sirènes, de fraises de dentistes et de chants bouddhistes. D'après un récit, on se servit également de cassettes subliminales silencieuses. Un autre récit raconte qu'un détenu de Guantanamo fut laissé dans une chambre vide avec un ghetto blaster diffusant des morceaux de rock classiques sur lesquels on surimposait des messages subliminaux censés l'encourager à avouer tout ce qu'il savait sur Al-Qaïda. À Fallujah, en Irak, l'armée américaine aurait également torturé des prisonniers harcelés avec de la musique. Outre ces allégations sur la guerre antiterroriste américaine, l'histoire épisodique de la guerre sonore a connu un chapitre plus célèbre encore avec les usages très documentés d'armes acoustiques par les armées américaines et israéliennes. En février 2004, par exemple, l'American Technology Corporation a remporté un contrat $1 million pour fournir le corps des Marines déployés en Irak en dispositifs acoustiques à longue portée. Ceux-ci sont censés apporter un outil non létal efficace pour communiquer, influer sur les comportements et servir d'appoint à l'emploi de la force létale. Il consiste en l'usage ciblé de rayons sonores à haute fréquence, entre 2100 et 3100 Hz, pouvant s'élever à 150 décibels dans un périmètre de 91 mètres. Leur fonction principale est de disperser les foules et ils furent également utilisés après l'ouragan Katrina pour repousser les pillards. Près de Jéricho, au début de l'été 2005, à la veille de l'évacuation de colons implantés en Cisjordanie, l'armée israélienne publia un communiqué de presse sur ses plans d'urgence en réponse à l'agitation des populations israéliennes et palestiniennes engendrées par la colonisation. L'armée de défense d'Israël baptisa sa nouvelle arme sonore non létale, le CRI. Les manifestants, pris par des vertiges et des nausées, couvraient leurs oreilles et se prenaient la tête entre les mains après que l'appareil installé sur des véhicules s'était mis à propager des rafales de sons audibles mais faibles à des intervalles de 10 secondes. Un photographe de l'agence Associated Press, présent sur place, raconta que même après s'être couvert les oreilles, il continuait à entendre le tintement de sons dans sa tête. Comme le nota un responsable militaire, l'appareil ciblait une fréquence spécifique dans l'oreille interne. Rajoutant à la confusion dans cette brumeuse ribambelle de recherche en armement acoustique, certains ont même soutenu qu'il s'agissait peut-être de la première fois qu'un tel dispositif avait été employé hors d'un laboratoire et sur le terrain, en dépit de l'absence de tout test préalable sur les dégâts auditifs à long terme d'une exposition prolongée.
Voici à présent l'agenda musical et militant de Musique en Lutte. On commence par le 24 novembre, une conférence gesticulée « Que serais-je sans toi ?» mêlant chant, lecture et scénette, Coralie Pradet s'est interrogée sur l'impact des relations avec les hommes sur la carrière de femmes artistes, à la fois très célèbres et méconnues. Cela se passera dans le cadre de l'exposition collective « Les héroïnes de l'ombre » à 20h au Adada, 60 rue Gabriel-Péry à Saint-Denis. Le 25 novembre, une fête de soutien CNT contre People and Baby avec projection et débat. Petit rappel sur cette lutte, quatre anciennes salariées syndicalistes CNT d'une crèche parisienne privée People and Baby, mises à pied puis licenciées au lendemain d'une grève, ont été déboutées en appel. Elles doivent rembourser des dizaines de milliers d'euros obtenus en première instance où la discrimination syndicale avait été reconnue. Elles sont victimes d'une injustice de classe. Elles sont aujourd'hui en cassation contre leur patron. Elles ont toujours besoin de notre solidarité après 14 ans de lutte contre People and Baby. Petite info de dernière minute à ce sujet, elles ont gagné hier en cassation et c'est une grande victoire pour la CNT. Venez donc célébrer avec nous cet événement à la parole errante. Il y aura à 16h ouverture des portes, à 17h projection et débat autour du film « Quand les femmes ont pris la colère » de Sozig Chaplin et de René Vautier en présence de Moira Chaplin-Vautier. À 19h, vous aurez les concerts de Julie Colère, René Binamé, Los Tres Puntos et Double Mix, accompagnés par moi-même Daman sur quelques morceaux. Cela se passera de 16h à minuit à la parole errante, 9 rue François de Bergue à Montreuil. Le 26 novembre, dans le cadre de la campagne antimilitariste de la Fédération anarchiste, un concert de soutien au journal Union pacifiste avec Pedro Fidalgo, Nathalie Solens, Philippe Alterac, Rémi Tarier et Fabienne Elkoubi. Il y aura une expo, des projections de films et des débats. Cela se passera de 16h à 21h à la librairie de la Fédération anarchiste, la librairie Publico, au 145 rue Amelot à Paris. Le 30 novembre, soirée à prix libre organisée par le collectif En veux-tu, en v'là, avec en concert Crombe, Chouard et Négatif Care de 19h à minuit à la gare expérimentale, 18 boulevard Serrurier à Paris 19e. Le 2 décembre, il y aura un concert de soutien à l'association INI avec les groupes Never Seven, RDC, King Kong Meuf. Entrée et boisson à prix libre, les bénéfices serviront à financer les services de INI, parmi lesquels une instance PeerTube de streaming vidéo, un service Nextcloud mis à disposition gratuitement pour les labels qui ont besoin d'échanger des fichiers en ligne, et d'autres services numériques libres, autogérés et auto-hébergés. Cela se passera à 20h au centre Paris-Annie-Montparnasse, 26 allée du chef d'escadron de Guy Hibon dans le 14e à Paris. Le 10 décembre, soirée organisée par le collectif CCC, le collectif Contre-Culture que l'on a invité à notre émission précédente, avec la présentation du livre 10 questions sur l'antifascisme du collectif méchamment antifasciste La Horde aux éditions Libertalia et une discussion avec le groupe antifasciste de l'Essonne. Puis en concert, les groupes Trotsky Nautique, LPDB, Rock'n'Bones, de 17h à 22h au CICP, Centre International de Culture Populaire, 21 Terre, rue Voltaire à Paris. Quant à nous, on se retrouvera pour la 4e émission de Musique en Lutte le 28 décembre de 20h30 à 22h sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Portez-vous bien, la lutte continue.
pas terminé par l'ordi. C'est terminé par un CD.
Voilà, je vais faire plus de
En fait, il faut que je commence à l'heure, en fait.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste.
It's the most beautiful, ugly sound in the world.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Radio Libertaire, 89.4. C'était Psylonia.
Pour auditeurs d'ado.
Eh ouais, les gars, ça.
Si je
fais
que je fais travailler.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia, Epsilonia, 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 Epsilonia,